ce matin. Vous allez bien? Amen. Voilà, donc on est heureux de se réunir et puis il y a différents visages. Il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément la parole de Dieu dans ce lieu. Il y en a d'autres qui la connaissent, qui sont plus avancés. Mais ce que nous croyons, c'est que notre Dieu veut parler à chaque cœur ici présent et que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Pour ce message, ce que j'ai fait, il y a quelque temps, je vous avais apporté un message sur le « Je suis », sur la présence de l'Éternel. Hein. On sait que Dieu est présent, on n'a besoin d'aucun artifice pour que Dieu soit présent. C'est même son nom, « je suis l'Éternel, je suis celui qui est ». Et j'ai voulu continuer sur cette idée avec Moïse, et on va prendre dans Exode 33, et là il nous est parlé, Moïse fait une prière à Dieu pour connaître davantage l'Éternel, pour connaître ses attributs. C'est-à-dire qu'on sait que l'Éternel est présent, on sait qu'il est là, l'Éternel est le « je suis », mais il y a des moments dans nos vies, et je ne sais pas pour vous, on a besoin de le connaître encore davantage. On veut avoir cette intimité avec Dieu, et on veut le connaître vraiment dans tout ce qu'il est. Alors dans Exode 33, on va faire une lecture dans le verset 11. Donc verset 11 et après, verset 18 à 23. L'Éternel parle avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Et ensuite, au verset 18, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je passe. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Voilà, j'ai voulu prendre ce passage, et déjà, quand on fait ces quelques lectures, on voit tout de suite qu'il y a un paradoxe. Je pense que vous l'avez compris, on a l'impression qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire que Moïse parle face à face avec Dieu comme un ami, et après il est dit « Personne ne peut voir ma face et vivre ». Ce que ça met en évidence, c'est bien sûr... Moïse n'a pas vu littéralement la face de l'Éternel. Mais par contre, il avait une intimité avec l'Éternel. Et en fin de compte, dans cette intimité, il a compris le caractère de Dieu. Il a compris ce que Dieu était réellement. Donc il avait cet entretien. Hein. Il n'a pas eu sa face, mais il a eu cet échange, comme avec un ami. Et après, il nous est dit que personne ne peut voir la face de Dieu. Pourquoi personne ne peut voir la face de Dieu? Parce que c'est une question de vouloir le maîtriser. C'est-à-dire que personne ne peut voir la face de Dieu, personne ne peut le prévoir, personne ne peut prévoir Dieu, personne ne peut comprendre ses agissements avant l'heure. On ne peut pas le maîtriser, Dieu. Par contre, il parle avec Moïse comme un ami, c'est-à-dire qu'il y a un échange. Il y a quelque chose qui est là, non pas pour que l'autre puisse le maîtriser, mais pour qu'il y ait une communication. Bon, ça, c'est quelques parenthèses. Donc, on voit Moïse qui parle à Dieu. Et ici, le contexte est très critique. Le contexte est très, très critique parce que Israël a élevé un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'Égypte, ils trouvent que Moïse tarde à revenir. Et ce qu'ils vont faire, ils vont faire un veau d'or, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire ce qu'ils ont connu en Égypte. Et Dieu dit à Moïse, écoute, ce peuple, ça ne va pas. Je leur parle, mais ils ne m'honorent pas de leur cœur. et je vais manifester ma colère sur eux. » Moïse se sent repris et puis il dit à Dieu, il va faire une prière d'intercession pour que le peuple d'Israël ne soit pas frappé par la colère de Dieu. Et on sait que le peuple, ce peuple-là, avait un cœur idolâtre. Ils avaient connu certaines choses durant l'Égypte, pendant 400 ans. Donc, quelque part, ça reste dans les cœurs. Et ils avaient de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'ils suivaient Dieu, mais il restait encore des choses dans leur vie qui faisaient qu'ils adoraient autre chose. L'idolâtrie, d'une façon simple, ce qu'il faut comprendre, c'est de l'infidélité. C'est-à-dire qu'on a un Dieu fidèle, et le fait de se tourner vers autre chose, c'est considéré comme de l'infidélité. Vous savez, l'idolâtrie aujourd'hui, c'est pas uniquement non plus d'avoir des statues à la maison, des pendentifs, des médailles. Bien sûr, c'est ça. Mais ça va plus loin que ça, l'idolâtrie. C'est aussi dans les idées. Et c'est pas pour rien que idolâtrie rime avec idée au niveau du mot. Donc on peut avoir des idées des fois qui sont idolâtres, plus que Dieu. On aime plus nos idées que Dieu. Et donc ce peuple est sorti d'Égypte avec leur statut, puis ils avaient enterré ça. Et de temps en temps, ils les ressortaient pour les consulter. Donc Moïse dit à Dieu, oui, ce peuple a péché. Mais quelque part, Moïse aussi a péché. On le voit au chapitre 34, verset 9. Moïse aussi a péché. Moïse a péché parce qu'il s'est mis en colère. Quand il a vu cette manifestation autour du veau d'or, il nous est dit que Moïse a pris les tablettes de la loi, il les a jetées par terre, il les a brisées. Aaron même lui a dit, écoute Moïse, que ta colère ne s'enflamme pas. C'était pas une sainte colère que Moïse avait, c'était une colère purement charnelle. Donc quelque part, Moïse, à travers cet acte, ne sanctifie pas Dieu. Et il donne une mauvaise représentation de Dieu. Et Moïse aussi a péché. Le peuple a péché, mais Moïse a péché. Il faut savoir que notre Dieu est tout puissant, mais ça n'a rien à voir avec la colère des hommes. L'Éternel décide de vie, de mort, s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas la colère des hommes, ça n'a rien à voir avec la colère des hommes. Même quand Moïse a frappé le rocher, il nous est dit que de l'eau est sortie, mais il l'a frappé avec colère, plusieurs fois. Donc, on va arriver sur notre problématique. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une révélation de Dieu, mais elle est progressive. On a pleinement la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ. Amen. L'Ancien est là, je donne cette image, l'Ancien Testament est là comme un échafaudage pour construire une maison. Mais une fois que la maison est construite, qu'est-ce que vous faites de l'échafaudage? Voilà, on le range dans le garage. Donc l'Ancien Testament, il y a une révélation progressive de l'Éternel. Mais nous avons pleinement la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Et Moïse, il est confronté à un problème, Moïse. Et on pourrait même l'entendre dire, j'ai un problème. Je sais, Seigneur, que je mérite ta colère. Je sais comment tu fonctionnes vis-à-vis du péché. Je sais que tu es le péché. Je sais qu'on a péché contre ta lumière. Je sais que tu peux nous détruire, mais moi j'ai un problème. Et c'est l'objet de sa prière. Il peut dire à Dieu, tu dis que tu me connais par mon nom. Tu me dis que je suis ton ami. Mais moi j'ai un problème. Il y a quelque chose que je ne sais pas de toi, Éternel. Je me demande si on pourra revenir un jour ou l'autre dans ta faveur. Je sais comment tu réagis par rapport au péché. Moïse avait vu comment il avait réagi vis-à-vis de Pharaon. Il a envoyé des plaies sur Pharaon, sur l'Égypte. Je te connais dans toute cette dimension-là. Je sais que tu es le péché. Mais Moïse a un problème. Il y a une dimension qu'il n'a pas encore compris de Dieu. Vous savez, Moïse, par rapport à cette époque-là, c'est un patriarche. Et donc le temps des patriarches est résolu, c'est fini. On a seulement un médiateur, c'est Jésus-Christ. Mais à cette époque-là, le patriarche représentait l'image de Dieu. Et en Moïse, il avait une théologie, c'est-à-dire qu'il avait quelque chose qui lui manquait au niveau de Dieu. Et ils ne savaient pas où aller quand le peuple péchait ainsi. C'est-à-dire que quand il y avait un tel péché, ils ne savaient pas où se tenir. Qu'est-ce que je fais avec ça? Où je me tiens? Je sais qu'il y a la colère, et puis tu veux nous abandonner. Alors si tu nous abandonnes, autant tout de suite creuser notre tombe ici, puis tout arrêter. Moïse a un problème, et ce problème, c'est qu'il n'a aucune notion et révélation de la grâce de Dieu, aussi bien lui que le peuple. On voit Moïse qui brise la loi, on voit Moïse qui se met en colère, on pouvait même le discerner sur son visage. Tu le vois aussi à un moment, il expose le péché de son frère devant toute la communauté. Donc il avait ses triggers. Alors, on ne va pas faire un procès à Moïse, mais c'est pour se remettre dans le contexte. Je voudrais qu'on se mette dans le contexte de ce temps-là. Et qu'est-ce qu'il disait le peuple quand il voyait ce genre de représentation? Il se disait, bon, si on pêche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va tuer quelqu'un dans notre famille, on va boire les eaux amères, on va être abandonné, et puis un autre peuple va se lever. Donc, Moïse a un problème. Il ne sait pas où se tenir quand le peuple pêche ainsi. Personne n'a connu une intimité comme Moïse. Il parlait à Dieu comme à un ami. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... Je pense que vous avez envie aussi de parler à Dieu comme à un ami. Amen. Personne ne connaissait Dieu comme cet homme. Et il y a peut-être plusieurs parmi nous, on n'a aucune notion de savoir comment Dieu peut traiter sa propre famille. Et Moïse, à un moment, il dit, ça suffit, Seigneur, montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. Seigneur, je veux connaître ton cœur. Littéralement, ça veut dire ça. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi connaître ton cœur. L'Éternel s'est révélé à Moïse en disant, je suis l'Éternel. Je suis celui qui est là, avec toi. Et là, Moïse, il se retrouve après un certain temps en disant, Seigneur, il y a quelque chose que je ne sais pas de toi. Montre-moi ton cœur. Moïse pouvait dire, j'ai vu comment tu as réagi dans ma vie, j'ai vu comment tu as fait face à certaines situations, comment tu nous as fait sortir d'Égypte, comment tu réponds à la foi, parce que Dieu répond à la foi. La mer s'est coupée en deux pour que le peuple passe. Ça, Moïse l'a vu. Il voit aussi les bénédictions que Dieu peut donner à celui qui se confie en lui. Il connaît la sainteté de Dieu. Il a été auprès du buisson ardent, donc il a cette notion de la sainteté de Dieu. Celui est saint, enlève tes sandales. Mais Moïse se pose une question. Ce n'est pas sur l'intimité qu'il a avec lui, ce n'est pas non plus de savoir s'il prie assez ou pas assez. Ce n'est pas de savoir s'il porte de bons fruits ou qu'il fait de bonnes choses. C'est Seigneur, quand il y a ce péché, quand il y a ces péchés, où je me tiens? Seigneur, je ne connais rien de ton caractère de grâce. Et Dieu va amener Moïse, et c'est là que c'est beau, Dieu va amener Moïse à une révélation de ce qu'il est. Cet homme crie dans son âme, j'ai besoin de te connaître, Seigneur, d'une façon différente. J'ai vécu pendant 40 ans avec toi des expériences merveilleuses, mais il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, que Dieu donne quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait une révélation de ta part, te connaître. Et Dieu va dire à Moïse, je vais faire passer ma gloire devant toi. Je vais faire passer ma bonté devant toi. Et il nous est dit que Dieu ouvre un endroit dans le rocher. Et ça, c'est beau, une cavité dans le rocher. Vous savez ce que ça représente, la cavité dans le rocher? C'est Christ. C'est une image de Christ. Dieu ouvre une cavité dans le rocher. Je vais te mettre dans cette cavité. Vous savez, pendant des années, on peut vivre là où Moïse vit. On peut être des juifs réformés au lieu d'être des chrétiens. On peut avoir toute une notion sur la sainteté de Dieu. On connaît la colère de Dieu. On sait qu'il n'aime pas telle ou telle chose. On sait qu'il fait face au péché dans nos vies. Mais quand il y a un péché dans nos vies, savez-vous où aller? Savez-vous vous tenir dans ces moments-là devant Dieu? Attention, je ne parle pas de péché volontaire, mais je parle d'être surpris par le péché. hein, que personne d'entre nous ne dise qu'il ne pêche plus, sinon on ferait de la parole de Dieu un mensonge. Mais je ne parle pas de péché volontaire, je parle d'être surpris par le péché. Et on a besoin du salut de Dieu. Amen. Moi, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. J'ai besoin de son salut. Sinon, c'est un petit salut, pas grand-chose. On a besoin de la grâce de Dieu. Les hommes religieux n'avaient plus besoin du salut. Ils avaient toute une cérémonie à faire, mais on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin d'être pardonné dans nos péchés. Donc, je parle d'être surpris dans le péché. Et permettre aussi, certaines fois, à l'ennemi de nous tromper. Et là, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans le désespoir. On se dit, je n'arriverai jamais à être à la hauteur. J'arriverai jamais à te plaire, Seigneur. Je ne serai jamais un homme juste. Et des fois, on peut se comparer avec d'autres personnes. Oh, lui, il est saint. Donc, un principe dans la vie chrétienne, jamais se comparer avec les autres. Jamais comparer, soi-disant, la sainteté de quelqu'un avec un autre. Donc, Moïse n'avait pas une pleine révélation de la grâce de Dieu. Et Dieu dit, il y a un rocher. Je voudrais que tu le prennes ce matin. Il y a une cavité. Et cela nous parle du cœur de Christ. Et je vais te mettre dans le creux de ce rocher. Je vais te mettre ma main sur toi. Dieu nous dit tout simplement, lorsque tu pèches, je veux que tu comprennes cela. La première chose que je fais au moment où tu cries vers moi pour avoir une révélation, eh bien, je vais te mettre en sécurité. Dieu te met en sécurité en Jésus-Christ. Prenez simplement ce matin cette parole de l'Évangile. Dieu est là pour te mettre dans la sécurité de Jésus-Christ. Et je vais mettre ma main de bénédiction sur toi. Surtout quand tu pèches, ne pars pas en courant et ne t'abandonne pas au mensonge du diable. Tu viens au rocher qui est Christ et la paix dans ton cœur. Ma main est sur toi et après je vais te donner une révélation. Une révélation qui libère de la culpabilité, des peurs et tu seras en sécurité en Christ. Est-ce que vous dites amen? Amen. Gloire à Dieu par rapport à toutes les choses que Dieu nous donne. Et je voudrais vraiment que tu prennes ce message ce matin. J'ai un petit livre de David Wilkerson. Et je vais vous lire seulement quelques passages. Ça s'appelle « Chrétien, dépose ta culpabilité ». Les chrétiens sont d'étranges créatures. Ils voyagent par le monde, prêchant l'amour de Jésus et son pardon pour tous les péchés. Ils disent aux païens, aux drogués, aux alcooliques, aux prostituées, « Venez à Christ et soyez pardonnés ». Il a pardonné vos péchés à la croix, alors venez et recevez le pardon et la guérison de toutes vos blessures. Vous pouvez recevoir la paix et être libéré de la culpabilité. En conséquence, des pécheurs coupables de tous les péchés et actes ignobles, imaginables, viennent à Christ avec joie et sont instantanément pardonnés et délivrés de leur culpabilité. Mais recevoir personnellement la même sorte d'amour et de pardon qu'il prêche aux pécheurs est la chose la plus difficile à faire pour un chrétien. Nous, chrétiens, avons beaucoup de mal à nous accorder la même libération de la culpabilité que nous offrons au travers de Christ aux prostituées et aux ivrognes. Les chrétiens pêchent contre le Seigneur et ils continuent à porter un fardeau écrasant de culpabilité. Ils veulent payer pour leur échec. Ils veulent être punis. Ils veulent faire pénitence et souffrir avant d'être pardonnés. On peut se situer dans cette catégorie. On peut être à cette même place. Mais Dieu nous dit qu'il y a un rocher. Il y a une bénédiction en Jésus-Christ. Êtes-vous dans ce rocher? Êtes-vous dans ce creux du rocher? Lorsque vous êtes faible, lorsque vous faiblissez, lorsque vous êtes dans la faillite, lorsque vous vous laissez surprendre par le péché, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est que tu te sauves. C'est un peu comme un malade, on va à l'hôpital, mais au lieu d'aller à l'hôpital, il va courir hors de l'hôpital. Et l'ennemi, ce qu'il veut, des fois, quand on pêche, c'est qu'on se sauve. Que tu te caches du Seigneur. Et c'est pour cela aussi que parmi nous, il y en a beaucoup qui ne prient plus. Parce qu'il y a une peur qui est là, de revenir dans la présence de Dieu. Mais Seigneur veut te dire tout simplement ce matin, viens au creux du rocher. Je veux vraiment que vous compreniez la grâce de Dieu. Souvent, on a peur de prêcher la grâce. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va se dire, si on prêche la grâce, les gens dans le péché, ils vont pécher encore plus, et puis c'est faux. Ça, c'est faux. On est là pour annoncer le message de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, tout simplement. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on veut vivre, mais c'est une bonne nouvelle avant tout. C'est pas des mérites ou quoi que ce soit, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle nous dit qu'il y a la grâce en Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on annonce la grâce que les gens vont se vautrer dans le péché. Au contraire, ce que ça a donné à Moïse, c'est quoi? C'est de la louange vis-à-vis de l'Éternel. Ce que nous pouvons voir aussi à travers ce texte, c'est que Dieu dit à Moïse, et ça c'est assez dur, mais c'est dans la parole, « Tu ne rentreras pas dans le pays de la promesse. » Et pourquoi il ne rentre pas? Parce qu'il a mal représenté, comme je vous le disais tout à l'heure, faussement, ce que Dieu pouvait être devant le peuple. Il a frappé le rocher avec colère, et il y a une représentation fausse, une fausse représentation de ce que peut être Jésus-Christ, de ce que peut être Dieu. Tu as frappé avec colère, et c'est une colère des hommes. Et la colère des hommes n'accomplit jamais le projet de Dieu. Et ces choses m'amènent à un certain tremblement, parce que, vous savez, le légalisme, par exemple, c'est des fois, ça se base sur des connaissances. Les gens pensent connaître telle ou telle chose, et à cause de cela, eh bien, il y a un légalisme qui est là, et le légalisme, souvent, c'est un manque de connaissance de la grâce de Dieu. Des traditions légalistes, des églises, qu'il faut dénoncer. On ne peut pas rester sur ces choses-là, il faut annoncer la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Et on peut voir même des serviteurs dans des églises, il faut leur pardonner, eh bien, être dur vis-à-vis de l'Assemblée, être dur vis-à-vis des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de lois, mais il y a très peu de signes de grâce. Et Dieu déteste cette représentation de ce qu'il est. Je ne dis pas que c'est un Dieu mièvre, sans virilité, sans rien du tout. Il est le Tout-Puissant. Fais ce que tu veux, Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Mais on ne peut pas non plus avoir une fausse représentation de Dieu. J'ai entendu ce témoignage c'était aux États-Unis. C'était une assemblée de pasteurs. Et donc ils se réunissaient entre pasteurs, et il y a eu une chorale à ce moment-là, une chorale d'anciens drogués qui se sont mis ensemble pour faire un chant. Et à la fin de ce chant, les gens ont applaudi. Et à la fin de la réunion, un des pasteurs a été voir l'organisateur en disant « c'est un blasphème, un blasphème ». Il dit « je ne comprends pas, il y a des gens qui sont venus à Dieu, ils se convertissent, c'est un blasphème ». On n'applaudit pas ainsi. Et en fin de compte, cet homme-là, sans le juger, il s'était fait une loi, une règle. On n'applaudit pas. Et donc la réunion continue. Et puis ils n'étaient pas les seuls. C'était devenu presque une doctrine. Et la réunion continue. Et en fin de compte, à la fin de la réunion, cette personne qui avait manifesté son mécontentement s'est mise aussi à applaudir. Et après, il a été voir l'organisateur en disant « il faut qu'on change ». Il faut qu'on change. Tout cela est présent en nous parce qu'on a un manque de révélation devant Dieu. Cette chose que Moïse a demandé, a prié, « Ô Seigneur, fais-moi voir ta gloire », eh bien, c'est vrai qu'il y a des hommes qui aiment le Seigneur, qui prêchent une loi sans miséricorde, et on a besoin de la révélation de Dieu. Amen. Amen. Donc, la représentation de Dieu, je voudrais qu'on s'enlève des mauvaises images de Christ dans nos vies. On a besoin de s'enlever une mauvaise représentation de Jésus-Christ dans nos vies. Vous savez, il est marqué dans 1 Pierre 3,15 « Sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire exactement ce que je viens de vous résumer en quelques lignes. Reçois la bonne révélation de Dieu, c'est-à-dire comprendre sa miséricorde, comprendre aussi qu'il est en colère contre le péché, mais lorsque tu pèches, tu cours vers le Christ. Je veux vraiment que lorsqu'il y a un péché, lorsque tu pèches, tu cours vers Jésus-Christ. Tu viens dans le creux du rocher. Tu viens en sécurité par la foi dans l'œuvre de Christ. Alors là, vous avez une vraie représentation de qui est Jésus. Là, vous sanctifiez le Seigneur. Vous êtes dans une vraie représentation de qui est Jésus. Que Dieu nous donne foi dans l'œuvre accomplie de Christ. Amen. Prêcher contre le péché, c'est prêcher aussi avec cette révélation. Alors si tu es son enfant, si tu es ici, si tu as péché, quel que soit ton combat, si tu détestes ce péché, eh bien Dieu veut qu'il y ait un peuple qui court vers le rocher de Christ. Court vers le rocher de Christ. Ne reste pas dans ce lieu d'anxiété, de peur, en écoutant les mensonges de l'adversaire, en essayant de te faire manger la poussière, mais cours vers le Christ. Pour qu'il puisse te couvrir, qu'il puisse te purifier et qu'il puisse te pardonner. Je crois que ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans les cœurs. Dieu veut donner une dimension nouvelle. Dieu veut donner cette dimension que on a un Dieu de grâce. Il est l'Éternel, il est présent, il est le Je suis, et on a un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. Et certains vivent dans... Vous savez, il y a des gens qui ont perdu le repos. Et pour ça que je l'annonce, je veux vraiment que ces anxiétés, ces choses qui te minent, qui te plombent, que tu puisses te mettre dans le creux du rocher. Certains peut-être regardent des choses qu'il ne faut pas à la télé, je tairai le nom, je ne vais pas tomber dans des détails, mais est-ce que c'est cela vraiment ton cœur? Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que tu aimes ça? Ça c'est une autre question. Mais si vous vous dites ça, c'est pas mon cœur, eh bien venez à Christ, qui peut nous donner d'être purifiés. J'aimerais qu'on appelle les musiciens, j'aimerais terminer avec un chant. Un chant qui nous dit d'être caché dans le creux du rocher. Quelques phrases qui... Est-ce qu'on peut se recueillir un instant? J'aimerais que la grâce de Dieu soit dans ce lieu, et puis que nos cœurs soient attentifs à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Je crois pleinement que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Certaines personnes sont là, c'est pas par hasard. Il y a une bénédiction qui est là. Il y a surtout un message qui nous dit qu'il y a une bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous l'avons annoncé, nous l'avons dit. Agneau de Dieu, son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Mais est-ce que tu le vis? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te pardonner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là dans ta vie et qui te mine jour après jour? Tu vis dans sa sainteté, tu connais la colère de Dieu, il s'est approché près de toi. Tu as besoin d'une révélation ce matin. La révélation de qui Dieu est et de sa grâce. Pour certains, ils se trouvent dans cet endroit avec trop de crainte, trop de culpabilité. Certains aiment le Seigneur, mais ont été surpris par certaines choses, comme le péché dans leur vie, et l'ennemi est venu pour rajouter et remettre encore des fardeaux. Ce matin, je demande un cœur honnête. Non pas exciter nos émotions, mais tout simplement avoir ce cœur honnête devant Dieu. Dieu veut faire une œuvre dans nos vies pour, non pas spontanée, mais pour que ça dure. Et je veux que tu saches qu'il n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Qu'il t'aime même dans tes échecs. Peut-être que quelque chose a touché ton cœur ce matin et je ne crois pas qu'il y a, qu'il y ait plus de sécurité que dans ses bras. Vous pouvez être n'importe où sur la terre, là où il y a le plus de sécurité, c'est dans les bras de Dieu, c'est dans le creux du rocher. Et je crois qu'il n'y a pas une plus grande victoire que auprès de Jésus-Christ.